Monsieur Moussa Nabati va nous parler de l'accueil de la dépression. Je laisse la parole à monsieur.
Voilà, donc je vais essayer d'expliquer clairement, dans un langage simple, les grands concepts qui se rapportent à la dépression, qui est effectivement un phénomène compliqué, complexe et extrêmement riche. Enfin, pour vous dire quelques généralités, on peut dire que la dépression, enfin d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est un phénomène qui est en progression constante. Bien sûr, il y a des facteurs sociologiques, culturels, historiques, dont on ne va pas beaucoup parler aujourd'hui. On va essayer de se centrer sur la problématique psychologique inconsciente. Mais la question qu'on peut se poser immédiatement, et puis on y réfléchira tout à l'heure ensemble, si vous avez aussi des questions à poser, c'est est-ce que franchement, véritablement, la dépression est un mal, est une pathologie, est une maladie, ou est-ce que, comme je le crois, c'est une chance dans la vie, c'est-à-dire que c'est une occasion de réorganiser sa personnalité et de ressusciter. Peut-être qu'en fait, ça n'est pas une maladie, ça n'est pas un mal à combattre, mais une chance à saisir pour devenir enfin soi-même. Mais on en reparlera tout à l'heure. Mais d'abord, une définition de la dépression, parce qu'en fait, le terme de la dépression est employé souvent dans deux sens tout à fait différents. C'est-à-dire, dans un premier sens, il est employé dans un sens, si vous voulez, extensif. C'est-à-dire que toutes les souffrances psychologiques, tous les malaises, tous les désordres de la personnalité, ben le grand public appelle la dépression, ça peut être également la psychose, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a également une utilisation restrictive de la dépression. On essaiera de définir tout à l'heure ce qu'on entend par l'utilisation spécifique du syndrome dépressif, pour ne pas le confondre avec l'ensemble de la pathologie psychiatrique et la pathologie mentale. Un dernier mot, c'est pour vous dire que la dépression, contrairement à ce qu'on croit, enfin, il y a des dépressions psychogènes, mais toutes les dépressions ne sont pas psychogènes, puisque de temps en temps, il peut y avoir aussi des facteurs tout à fait organiques. Par exemple, un cancer, l'utilisation des anorexigènes, des tumeurs cérébrales ou des perturbations hormonales, ou par exemple des perturbations hormonales sur le plan de la thyroïde, etc. Donc on ne va pas parler de ça non plus, on va se centrer sur la définition de la dépression par rapport à l'organisation psychologique de la personnalité. Alors comme je disais tout à l'heure, donc, il y a une utilisation restrictive du syndrome dépressif. Donc il faut savoir que la dépression se manifeste essentiellement par trois catégories de symptômes. Alors, le premier symptôme, c'est la chute de l'humeur. Alors, ça veut dire que le déprimé n'a pas le moral, c'est-à-dire qu'il est sombre, qu'il est négatif, il est pessimiste, il a envie de rien, il s'ennuie, il pleure. Vous voyez, tout ça, c'est la chute de l'humeur. Il ne s'intéresse à rien, il est triste, il perd l'estime et la valeur de lui-même, il a une mauvaise image de soi, il n'a pas confiance en lui, il n'a pas d'amour pour lui-même. Et puis il trouve que sa vie n'a pas de sens. Donc il a une mauvaise image de lui-même, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire il se trouve nul, idiot, moche, inintelligent, etc. Et la deuxième catégorie des symptômes dans la dépression, c'est le blocage. Alors ce blocage va se manifester à trois niveaux différents. Le premier niveau du blocage, c'est sur le plan relationnel. C'est-à-dire que le déprimé est bloqué. Le déprimé, il est replié sur lui-même. Il ferme la chambre, les volets, les rideaux. Hein. Il est dans un état d'hibernation. Il s'isole, il ne travaille pas, il a de moins en moins de sorties, il ne voit pas ses amis. Et donc, il n'a pas d'amour pour lui-même, il n'a pas d'amour pour les autres, sur le plan relationnel. Alors ça aussi, c'est un concept intéressant. On s'aperçoit tout de suite que l'amour de soi, l'amour pour soi et l'amour pour autrui, ça ne sont pas deux contradictions, ce ne sont pas deux amours antinomiques, mais qu'en fait, que dans la dépression, à partir du moment où le moi est délibidinalisé, c'est-à-dire que la personne ne s'aime pas, ce non-amour de soi s'accompagne obligatoirement du non-amour de l'objet, du non-amour d'autrui. C'est-à-dire que l'amour pour soi et l'amour pour l'autre vont de pair. C'est pour ça qu'il y a ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut aimer son prochain que si on s'aime, on ne peut s'aimer que si on aime son prochain. Donc dans la dépression, l'amour, la libido est complètement en état de congélation, en état d'hibernation, c'est-à-dire le déprimé ne peut investir ni de l'amour sur lui, ni de l'amour sur autrui. Alors j'ai dit que dans la dépression, il y avait le phénomène de blocage. Il y avait trois formes de blocage. Une des premières formes, c'était sur le plan relationnel. Il y a un deuxième blocage qui est sur le plan psychologique. C'est-à-dire que le déprimé, il n'a pas de désir, il a envie de rien. Il n'a pas de motivation, il n'a pas de tonus, il n'a pas d'énergie. Alors comme disait Jeannet, son élan vital est diminué. Il n'a pas d'agressivité, il n'a pas de combativité, il n'a pas de volonté, il n'a pas d'humour non plus. Et alors même ses facultés cognitives s'en ressentent, c'est-à-dire qu'il a des troubles d'attention, il n'arrive pas à se concentrer, il manque de rigueur. Et puis toujours sur le plan psychologique, donc ce blocage se manifeste par le pessimisme. Et puis alors, par des troubles de mémoire, mais alors aussi sur le plan du vécu du temps. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que l'amour de soi et l'amour du prochain vont de pair. Alors il s'agit exactement de du même phénomène pour le temps. C'est-à-dire que dans le temps, il y a trois dimensions. Il y a la dimension du passé, du présent et de l'avenir. Alors le déprimé, il regarde son passé avec péjoration, c'est-à-dire un tissu, un ensemble d'échecs sur tous les plans. Il n'a pas de projet d'avenir, c'est-à-dire il n'arrive pas à investir sa libido dans l'avenir. Et justement, en raison de cette péjoration du passé et de l'avenir, il n'a pas de présent. Parce que le présent est un pont entre le passé et l'avenir. Le présent est un présent dans le sens du cadeau. Hein, on dit présent. Le présent est un cadeau qui est donné en fait à celui qui peut arriver à s'inscrire, à s'enraciner dans la terre de l'ancêtre morte, c'est-à-dire dans le passé, et qui arrive à se pencher vers l'horizon du fils à naître. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de présent si on n'a pas de passé et d'avenir. Alors chez le déprimé, dans le blocage sur le plan psychologique, eh ben, il y a aussi la délibidinalisation du temps. Donc il n'a pas d'avenir, il n'a pas de passé, donc il ne peut pas vivre dans le présent. J'ai dit qu'il y avait aussi un troisième blocage, c'est sur le plan corporel. C'est-à-dire que le déprimé, il est bloqué, il est faible, il est fatigué, il est là. Il est épuisé, il n'a pas de dynamisme. Alors c'est pour ça, comme il se replie sur lui-même, il a des douleurs articulaires. Son sommeil est perturbé. Et ce qui se passe de manière très intéressante, qui montre bien que la dépression, c'est effectivement un phénomène de fermeture et un phénomène de délibidinalisation. On s'aperçoit que sur le plan du blocage corporel, eh ben, tous les orifices du déprimé sont bouchés. Hein? C'est-à-dire que bon, il sent pas, il entend pas bien, il voit pas bien. Mais enfin, surtout, il y a le phénomène de l'anorexie, bouché là. Il peut y avoir effectivement des phénomènes de constipation très souvent. Hein, l'anus est bouché. Et puis, chez l'homme et chez la femme, donc il y a le problème de la frigidité, de l'impuissance, vous voyez. C'est-à-dire que comme si le corps représentait un peu, enfin, les orifices représentaient un peu l'ouverture au monde. Donc, tous les orifices sont complètement délibidinalisés, tous les orifices sont complètement bouchés. Et donc, il y a la fermeture, hein, à l'image des fenêtres et des volets et des portes dont je vous parlais tout à l'heure. Les orifices sont également bouchés. Alors, j'ai dit qu'il y avait trois symptômes. Là, j'ai parlé du blocage. Tout à l'heure, je parlais de la chute de l'humeur. Et puis, le troisième symptôme, c'est la souffrance morale. Alors, la souffrance morale, ça veut dire que le déprimé, il est conscient de sa dépression. Il souffre et il essaie de lutter contre la dépression. Alors, naturellement, plus il lutte contre la dépression et plus la dépression augmente. Alors vous pouvez imaginer un ressort, c'est-à-dire plus vous appuyez sur le ressort et plus vous donnez de l'énergie au ressort. En fait, c'est comme ça vis-à-vis de la dépression, mais pas seulement, parce que vis-à-vis de toute la symptomatologie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire à partir du moment où on est dans une lutte par rapport à son symptôme, en fait, on nourrit le symptôme. On nourrit le monstre minotaure dans le labyrinthe. C'est-à-dire, non seulement on n'arrive pas à apaiser sa souffrance morale, mais d'avant, plus on lutte et plus on nourrit le symptôme et plus on nourrit la souffrance. Donc le déprimé, il souffre et il essaye de lutter contre sa souffrance. Il se sent inférieur, il est dans le dénigrement de soi, il a des sentiments de culpabilité, il considère sa vie comme un échec, comme un gâchis. La chute de l'humeur. Voilà. Et puis alors, en même temps, dans beaucoup de phénomènes de dépression, il y a aussi le phénomène des angoisses, enfin l'angoisse surtout le matin, parce que l'angoisse du soir, on l'appelle l'angoisse vespérale, mais ça c'est l'angoisse matinale. Vous comprenez pourquoi l'angoisse matinale? Parce qu'effectivement, il s'agit de passer, de s'ouvrir. Il s'agit de s'ouvrir dans la vie, il s'agit de s'ouvrir dans la journée. Donc le fait de passer du lit à la station debout, alors ça on appelle la clinophilie, donc la clinophilie, oui, c'est-à-dire que le déprimé, il aime le lit, donc il peut rester des heures sur son lit sans dormir. Et voilà, donc il y a on appelle ça aussi le phénomène anxio-dépressif, parce que le déprimé est aussi anxieux à partir du moment où il doit effectivement s'ouvrir aux autres et s'ouvrir à la vie. Une dernière généralité, c'est qu'on classifie les dépressions en deux parties. On appelle la première partie les dépressions réactionnelles, c'est-à-dire que quand quelqu'un est déprimé, on arrive à trouver des circonstances objectivables, des facteurs déclenchants dans un passé pas trop lointain. Et une deuxième catégorie de la dépression s'appelle les dépressions endogènes, c'est-à-dire, ou même des dépressions atypiques, c'est-à-dire ils ne sont pas typiques, c'est-à-dire ils ne sont pas spécifiques, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver immédiatement un facteur déclenchant. Par exemple, la mélancolie, on la catégorie dans les dépressions endogènes, c'est-à-dire on n'arrive pas à trouver le facteur qui a fait déclencher ça, ou on range aussi là-dedans les phénomènes des psychoses maniaco-dépressives. Alors, je voudrais vous dire également que la dépression, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, à mon avis, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas un mal, ce n'est pas une maladie contre laquelle il faut lutter. Parce qu'en fait, la dépression, c'est un phénomène qui fait partie de la vie, inhérente à la vie. C'est-à-dire que, en fait, la dépression, ça signifie la capacité qu'on a tous, chacun, à pouvoir passer d'un état à un autre, à pouvoir faire le deuil du passé pour épouser l'avenir. Et ce qui veut dire que, enfin, le deuil du passé, c'est-à-dire en intégrant, pas en effaçant, mais intégrer le passé et pour se lancer, pour se projeter dans l'avenir. Alors, ce qui veut dire que à chaque fois qu'on passe d'un état à un autre, eh ben, il y a une dépression qui se manifeste. Mais je ne parle pas de dépression pour parler d'une dépression normale, mais on appelle ça la dépressivité, c'est-à-dire la capacité qu'on a de pouvoir faire le deuil de ce qui fut pour épouser ce qui viendra. Alors ça, c'est un phénomène absolument normal. Et ça commence dès la naissance, c'est-à-dire que l'enfant, quand il a les poussées dentaires, bah, il vit sa dépressivité, l'éducation sphinctérienne, vous voyez, la différence des sexes, la différence des générations. Plus tard, quand il apprend à parler, quand il marche, quand il va à l'école, vous voyez. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une évolution, cette évolution va se manifester par une souffrance, par un prix à payer, hein. Et cette souffrance, quand il arrive à en faire le deuil, s'appelle la dépressivité. C'est tout à fait normal. Et quand il arrive à l'adolescence, c'est exactement pareil. Et puis quand il se marie, c'est pareil, parce qu'au moment du mariage, donc, il faut enterrer la vie de garçon, il faut enterrer la vie de jeune fille. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il y a une espèce de deuil à faire par rapport à ce qui fut pour devenir et pour continuer à être en devenir. Alors c'est pour ça qu'effectivement dans le temps, il y avait des cérémonies d'initiation, donc on aidait les adolescents à enterrer en quelque sorte leur vie d'enfant pour pouvoir devenir adulte. Parce que le concept d'adolescent, c'est un concept qui est moderne et ça n'existait pas avant. Voilà. Alors tout ça, je crois que vous le connaissiez déjà, mais c'était un résumé rapide des connaissances sur la dépression. Voilà. Alors maintenant, donc on va parler donc la dépression, comment elle se manifeste. Alors dans la clinique, on s'aperçoit que la dépression se manifeste. Alors si on fait attention à la classification que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire les dépressions réactionnelles et les dépressions endogènes. Donc dans la plupart des cas, on s'aperçoit que la dépression se manifeste à la suite d'une perte, d'un abandon, d'une séparation, d'une agression physique ou psychologique. En fait, à la suite des blessures narcissiques. la découverte d'une infidélité, un licenciement, un divorce, le fait d'avoir été victime d'un attentat, etc. Alors on s'aperçoit à ce moment-là qu'en fait la personne devient déprimée parce que par le mouvement de la séparation, il y a une espèce de séisme, il y a une espèce de tremblement narcissique qui s'est passé. On a le sentiment qu'en perdant l'objet, il s'est perdu en même temps. On s'aperçoit qu'en fait, si par exemple on veut donner une image, on s'aperçoit que chez lui, l'opération mathématique de 10 moins 1, ça se solde par 0. C'est-à-dire puisqu'il il manque quelque chose, puisque l'opération de la castration, en fait, ça l'annihile, ça l'émiette complètement. C'est-à-dire comme il a perdu quelque chose, en fait, il a tout perdu et il s'est perdu avec. C'est dans un mouvement un peu global. Alors donc, en fait, on s'aperçoit dans la clinique que le facteur, parce que beaucoup de déprimés, ils disent, voilà, moi je suis déprimé depuis que ma femme m'a quitté, ou mon mari m'a trompé, ou j'ai été licencié, etc. Alors le déprimé, en fait, quand il parle de sa dépression, il confond complètement le facteur déclencheur, l'origine et le facteur causal. C'est-à-dire qu'il présente les choses comme si il est déprimé parce que sa femme l'a quitté ou parce qu'il a été licencié. Mais alors, ce que j'essaie d'introduire, c'est ce que j'appelle la loi des deux A, c'est-à-dire que le facteur déclenchant ne fait que déclencher, mais en fait, le sens de la dépression, c'est dans la loi des deux A, c'est-à-dire ailleurs, avant. C'est-à-dire que la dépression, son sens et son origine ne se situent pas dans un ici et maintenant, dans le discours du patient, qui est en fait un discours manifeste, et c'est à la fois pour brouiller les pistes pour lui-même et pour faire brouiller les pistes pour le thérapeute, mais en fait, le sens et l'origine se trouvent dans un ailleurs et dans un avant. Et le facteur déclenchant, donc, il remet le couteau dans la plaie, il crève un abcès, il fait remonter à la surface une souffrance ancienne qui était refoulée. Donc le facteur déclenchant, ça n'est pas le facteur causal. Alors quelle est la cause? Quelle est l'origine de la dépression à travers l'expérience qu'on peut en avoir dans la clinique? Alors moi, j'ai choisi de vous présenter la dépression sous l'angle de la culpabilité. Alors ça ne veut pas dire que l'origine de toutes les dépressions, c'est la culpabilité, mais moi j'ai choisi d'étudier préférentiellement la notion de la culpabilité dans la dépression. Alors, quand on étudie la culpabilité sur le plan réel, sur le plan juridique, on s'aperçoit, enfin vous en connaissez tous la définition, on s'aperçoit que est coupable celui qui a brisé un interdit, celui qui a commis une agression, hein, brûlé un feu rouge, enfin quelqu'un qui a fait du mal, qui a franchi des limites fixées par la loi, par les règles d'une société, qui a brisé un interdit, etc. Alors, sur le plan de l'inconscient, c'est totalement différent et totalement contraire. C'est qu'en fait, la notion de la culpabilité, enfin, est coupable pour l'inconscient, non pas celui qui a commis le mal, mais est coupable celui qui a soit assisté à la violence, soit a subi le mal. Le vrai coupable, pour l'inconscient, est en fait la victime. Le vrai coupable est en fait celui qui est tout à fait innocent. Par exemple, pour donner un exemple très rapide, mais on reviendra là-dessus plus tard, on voit dans le discours de toutes les femmes qui ont été violées, en fait, c'est elles les vraies coupables. Quand je dis les vraies coupables, je ne dis pas les réelles coupables. Je veux dire qu'elles se considèrent comme étant coupables. Ça ne veut pas dire que moi, je les considère. Mais elles se sentent coupables parce que, justement, elles ont subi la violence. Alors l'origine de la dépression, donc c'est une origine qui se situe d'après la loi des deux A, ailleurs et avant, et donc l'origine de toutes les dépressions, c'est dans l'enfance, et, enfin c'est par rapport à la culpabilité dans l'enfance. Alors pour résumer ça, je dirais l'origine de toute dépression est l'enfant intérieur coupable. C'est-à-dire que nous sommes en deux compartiments, nous avons une personnalité à un moi adulte, enfin, on peut imaginer les poupées russes par exemple, hein. Il y a une grande et puis après une plus petite, ou on peut imaginer aussi l'oignon, il y a plusieurs couches. Donc nous sommes en deux parties, nous sommes doubles. Nous avons un petit enfant en nous qui n'a pas grandi, enfin qui est toujours là, et puis nous avons continué quand même à croître, à grandir, à devenir des adultes. Donc alors à chaque fois qu'on est déprimé, ça veut dire que cet enfant a été réveillé. Alors pourquoi ? Parce que quand on est enfant, effectivement, on est dans un état d'indifférenciation. Les psychanalystes, ils appellent ça un état de toute puissance. On est dans un état d'indifférenciation par rapport à la vie, par rapport à tout le monde. C'est-à-dire que je suis tout et tout est moi. Il n'y a pas de séparation parce que la castration et la symbolisation n'a pas encore des phénomènes qui ne sont pas bien mis en place et bien achevés. Alors ça veut dire que tout ce qui arrive quand je suis enfant est de mon fait et de ma faute, et c'est à moi de réparer. C'est-à-dire que je suis dans tout. Alors ce qui veut dire que quand un enfant, par exemple, n'a pas été désiré, quand un enfant n'a pas été aimé, vous comprenez ? Quand un enfant... Alors, vous voyez, donc, c'est-à-dire, d'où vient la culpabilité de l'enfant ? C'est la dépression, c'est toujours par rapport à l'enfant intérieur coupable. Quand un enfant a été maltraité, quand un enfant a été l'objet de l'inceste, quand un enfant a perdu un petit frère ou une petite sœur, quand un enfant assistait à la violence de ses parents entre eux, les parents qui ne s'aimaient pas, quand les parents divorcent, vous voyez ? Tout ce qui arrive... avant peut-être même la naissance de l'enfant, où l'enfant est l'objet de la violence, où il assiste à la violence, eh bien c'est de sa faute. C'est-à-dire que, étant donné que nous avons en nous tous un noyau de culpabilité archaïque, et d'autant plus quand nous sommes enfants, donc c'est ce noyau archaïque de culpabilité très puissant et très mis en place, alors à chaque fois, c'est ce noyau qui est sensibilisé, c'est ce noyau qui est titillé. Alors la culpabilité, c'est très important parce qu'effectivement, on peut se poser la question de savoir pourquoi toutes les religions ont commencé par la notion de la faute et de la culpabilité. Alors on en a déduit que les religions sont culpabilisantes. Ma théorie, c'est tout à fait l'inverse. Je pense que la religion est parfaitement déculpabilisante parce que dès les premières pages, il pose la question de la culpabilité humaine en disant « il y a ça et il faut voir comment tu vas gérer, comment est-ce qu'on va se débrouiller avec cette culpabilité qui est déjà là avant même que le moi puisse être suffisamment structuré pour l'affronter. Donc en fait, la religion introduit une notion, voyez, nous met enfin face à cette culpabilité archaïque, archétypique et collective. Voilà. Donc l'enfant, tout ce qui arrive est de son fait et de sa faute et c'est à lui qu'il doit réparer. Alors, ce qui veut dire que quand un enfant est l'objet de la violence, maltraité, non désiré, l'inceste, malade, perdu son père, ses parents divorcés, enfin, tous les événements qui peuvent arriver est effectivement de sa faute. Alors, sur le plan libidinal, c'est très important, parce que quand un enfant est maltraité, il lui arrive deux choses. Enfin, déjà, par rapport à la culpabilité, quand il y a, par exemple, les parents ne s'entendent pas, ce qui est très important, c'est que nous sommes tous conscients, on en parle tout le temps, que les parents sont très inquiets pour leurs enfants, ça on le sait. Mais une notion qui a été complètement scotomisée, c'est que les adultes, ils ont complètement oublié que l'inquiétude des enfants pour leurs parents, c'est encore beaucoup plus important que l'inquiétude des parents pour leurs enfants. Et en plus, les parents, ils ont des mécanismes d'action, ils ont des mécanismes de défense, et les enfants, ils sont complètement dans les fantasmes et ils ne sont pas protégés par rapport à cette grande inquiétude qu'ils ont pour leurs parents. En fait, les vrais parents, c'est les enfants. Et les vrais parents, c'est les enfants qui sont les parents de leurs enfants. Donc il y a ça, il y a aussi la notion qu'à partir du moment où un enfant n'a pas été arrosé libidinalement, c'est-à-dire qu'il a assisté justement à la violence ou il a subi la violence, il y a deux traumatismes qui s'introduisent en lui. Un traumatisme qu'on connaît parfaitement, c'est vraiment une banalité effroyable, c'est il n'a pas été aimé, il n'a pas été arrosé narcissiquement. Donc l'enfant a souffert parce qu'il n'a pas, été aimé. Donc quand il n'a pas été aimé, il est coupable. Il est coupable parce que s'il n'est pas aimé, c'est qu'il n'est pas aimable, c'est qu'il n'est pas digne. Donc c'est de sa faute s'il n'est pas aimé. D'accord ? Mais ça, c'est un phénomène qu'on connaît par rapport à la souffrance, à la blessure de non-amour. Mais un phénomène qu'on connaît beaucoup moins, Enfin, en fait, le fait de n'avoir pas été aimé, c'est rien. Ça n'a aucune importance, enfin, ça a très peu d'importance. Mais ce qui arrive de pire encore quand l'enfant n'a pas été aimé, c'est qu'il ne peut pas aimer. C'est-à-dire que quand il est face à des parents maltraitants, il ne peut pas investir de la libido sur ses propres parents. Parce que ce sont des parents ou n'importe quoi. Il y a la négativité. C'est-à-dire à partir du moment où l'objet est négatif, donc l'enfant ne peut pas aimer. Et le fait de n'avoir pas pu aimer quand on est petit, c'est encore pire, et c'est d'autant plus pire parce qu'il reste inconscient, c'est encore pire que le fait de n'avoir pas été aimé. Et on a l'impression que toute cette masse libidinale qui n'a pas pu être dépensée, qui n'a pas pu être investie, se retourne contre le moi, et vous voyez, ça devient quelque chose de vénéneux et quelque chose de toxique pour le moi. Donc c'est très important, il n'est pas seulement important d'avoir été aimé, bon ça c'est bien, mais le plus important c'est de pouvoir aimer. Alors donc une fille par exemple qui a été victime de l'inceste, donc non seulement elle a été victime de l'inceste, c'est-à-dire c'est de sa faute, mais en plus à partir de là, il y a interdiction de pouvoir, elle peut pas aimer le père. Le père qui est en fait le premier mari, le premier amant, et donc toute sa libido va rester non dépensée, donc ça va retourner contre elle-même, et plus tard elle pourra pas aimer quelqu'un d'autre. Et donc le fait de ne pas pouvoir aimer, donc emprisonne la libido, et quelque part c'est peut-être encore pire ou aussi important que le fait de ne pas avoir pas été aimé. À ce qui se passe sur le plan de l'enfant, c'est que l'enfant, parce qu'il a assisté à la violence ou parce qu'il a subi la violence, à ce moment-là, par rapport toujours à la culpabilité, il va y avoir deux phénomènes. Un premier phénomène, c'est qu'il risque de s'orienter vers l'expiation, c'est-à-dire puisqu'il y a la culpabilité, donc il faut qu'il y ait l'autopunition, l'expiation, donc la demande enfin, le masochisme. De se faire punir, de se faire maltraiter, et d'échouer, de se faire torturer, vous voyez, donc de se faire abandonner, de se faire agresser, etc. Vous voyez, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu violence et la culpabilité a été titillée, donc il y a deux mécanismes qui vont se mettre en place. Un mécanisme qui va aller dans le sens de l'expiation, vous me suivez? Hein, donc, se faire mal, etc., parce qu'on a fait une faute. Et un autre mécanisme qui va aller dans le sens de la quête de l'innocence. Ça, c'est un mécanisme de défense dont vous entendez parler peut-être pour la première fois, la quête de l'innocence. C'est-à-dire essayer de tout faire pour montrer à soi-même et pour montrer aux autres, voyez, qu'on est innocent, qu'on est gentil, qu'on est bien, qu'on est sympathique, qu'on n'est pas mauvais, qu'on n'est pas mortifère. Alors à ce moment-là, on se sacrifie, on donne, on s'occupe pas de soi, on veut être irréprochable. Et comme justement, je vous ai dit tout à l'heure que l'enfant, il est coupable parce qu'il n'a pas été aimé, d'accord? Alors, c'est-à-dire qu'il n'a pas été suffisamment materné, alors à ce moment-là, c'est lui qui devient mère. C'est-à-dire, ce qui est très important, c'est que on s'identifie toujours au manque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas eu de maman, on devient la mère universelle. C'est-à-dire, on devient celui qu'on souhaitait qu'on ait, mais qu'on n'a pas eu. Vous comprenez ça? Voilà. Alors, donc, l'enfant va mettre peu à peu en place deux mécanismes. Un premier mécanisme, c'est l'expiation. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Et un deuxième mécanisme important, c'est la quête de l'innocence. C'est-à-dire qu'il va devenir très gentil, serviable, il va s'occuper des autres petits-enfants, il va tout faire, il va ramener des bonnes notes, vous voyez, enfin, il va tout faire pour dire, voilà, donc ça veut dire pour dire qu'il est innocent, qu'il n'est pas coupable. Alors, essentiellement, ce qu'il va faire, qu'on peut résumer ce mécanisme en un mot, c'est il ne va plus s'occuper de lui, il va s'occuper que des autres. C'est-à-dire que tout l'amour, c'est-à-dire l'amour de soi et l'amour du prochain, il va y avoir une espèce de schisme, vous me suivez, où il y a interdiction de l'amour de soi, est la générosité illimitée de l'amour d'autrui. Comprenez-vous maintenant pourquoi je vous ai cité tous les symptômes de la dépression? Et comprenez-vous maintenant pourquoi je vous ai dit que tous les symptômes de la dépression, sans exception, renvoyaient au même mot la délibidinalisation, c'est-à-dire l'amour de soi. C'est-à-dire ce qui est absolument fondamental dans la dépression, c'est l'interdiction absolue de l'amour de soi. Voilà, donc l'enfant va mettre en place peu à peu deux mécanismes de défense. Un premier dans le sens de l'expiation, c'est-à-dire de se faire punir. Et un deuxième dans le sens de la quête de l'innocence, c'est-à-dire pour aimer généreusement et de façon illimitée les autres. Il est altruiste, il est gentil, il s'occupe de tout, il ne pose aucun problème. Et interdiction totale ou presque de l'amour de soi. Mais alors, ce qui se passe aussi de manière très intéressante chez les enfants, c'est qu'en fait, ils essayent de refouler quand même la culpabilité. C'est-à-dire qu'il y a la valorisation de la quête de l'innocence davantage que la recherche de l'expiation. Est-ce que vous m'entendez? C'est-à-dire que puisque l'enfant, de toute façon, il faut qu'il grandisse. De toute façon, il faut qu'il continue à croître. Et donc l'évolution ne peut pas s'arrêter. Donc il devient grand. Il devient grand, il apprend à lire et tout, il est brillant. Il amène des bonnes notes pour faire plaisir. Vous voyez, toute la stratégie est dans le sens de montrer qu'il est bien. C'est pas de sa faute si le petit frère est mort. Vous voyez, il est toujours dans la quête de l'innocence, dans la quête de brillance. Il est gentil, il est agréable et tout, il pose pas de problème. Alors donc, étant donné que l'enfant, il faut quand même qu'il continue à grandir, donc pour l'instant, l'expiation est mise de côté. La culpabilité, l'expiation est mise de côté, mise à distance et refoulée. Et ce qui manifeste le plus franchement, c'est le mécanisme de la quête de l'innocence. Donc, pour se faire aimer, et pour donc il devient la maman, enfin, dans une espèce d'inversion générationnelle intéressante, c'est-à-dire au lieu qu'il soit enfant, donc il devient maman. Alors, donc, le problème aussi, c'est que la plupart des déprimés, pour ne pas dire tous, ce sont des gens qui, en fait, n'ont pas eu d'enfance. C'est-à-dire que très tôt, à l'âge de 1 an, 12 ans, ils ont été maman. Ils ont été maman, papa, enfin, ils n'ont pas eu d'enfance, ils ont sauté des étapes essentielles de leur vie, mais ils ont gardé l'enfant intérieur coupable. Vous voyez? Alors, ce qui veut dire, alors là, je reviens un petit peu au point de départ, ce qui veut dire qu'après, quand il y a un facteur déclencheur ou déclenchant qui arrive, hein, par exemple, un mari qui quitte sa femme, effectivement, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La personnalité adulte, il n'y a pas de problème. Ce choc, ce traumatisme, cet abandon, cette perte, puisque c'est une violence subie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la femme qui est victime qui en est coupable. Vous suivez mon argument? À ce moment-là, ça veut dire que c'est la loi des deux A, c'est-à-dire ailleurs et avant. Ça n'a rien à voir avec ici et maintenant. Ça n'est même pas sur le plan de la dépressivité normale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais c'est sur le plan de la dépression, c'est-à-dire qu'en fait, ça réveille l'enfant intérieur coupable qui est en chacun de nous et que jusque-là, il s'était évertué dans la quête de l'innocence. Vous entendez ça? Donc à ce moment-là, ça révèle en fait, ça remet à la surface toute la culpabilité depuis même avant sa naissance et probablement même toute la culpabilité ancestrale. Est-ce que vous suivez mon argument? Un exemple. J'ai eu récemment donc une femme qui m'a dit donc qui était très très déprimée, qui était vraiment mal, perdu 18 kilos, tous les symptômes que je vous ai décrits, qui n'arrivait pas à dormir, anorexie, aménorrhée, frigidité, pas de sommeil, enfin, je ne vais pas répéter tous les symptômes. Hein. Voilà. Alors son état était tellement mal qu'elle a été hospitalisée à l'hôpital psychiatrique pendant 2 mois et demi. Et puis après, moi, je l'ai reçue après à la sortie de l'hôpital psychiatrique. Alors, qu'est-ce qui va pas? Mon père est mourant, je vais très vite. Hein. Mon père est mourant, ma mère également. Mes deux parents sont en train de mourir, alors j'ai fait une dépression très grave. Et bien sûr qu'on peut pas faire une dépression grave quand les parents meurent. C'est absolument pas suffisant. Parce qu'à ce moment-là, on est dans le cadre de la dépressivité. C'est-à-dire, c'est normal d'être pas bien quand il y a un problème grave, quand il y a papa et maman qui meurent. Bien sûr, c'est un drame absolument affreux. Mais on ne se fait pas hospitaliser dans un hôpital psychiatrique, on ne perd pas 18 kilos pour ça. Alors ça, ce n'est pas la dépressivité, c'est la dépression. Alors je lui ai dit, je lui ai bien fait comprendre que son argumentation, ça ne tenait pas debout et qu'on ne peut pas se faire hospitaliser, ce n'est pas une raison suffisante. Il m'a dit oui, mais il faut que je vous avoue quand même ce qui m'est arrivé. Et un matin, je n'ai dit à personne, c'est la première fois que j'en parle, un matin, je me suis aperçu que mon mari s'est levé à 6 heures du matin pour aller prendre une douche. C'est un menuisier. Alors ça m'a paru absolument étonnant parce que mon mari se lavait tous les soirs. Et c'était bizarre qu'il se lave le matin avant d'aller au boulot. J'étais inquiète. Il est parti avec sa voiture, je l'ai suivi, etc., etc. Il est rentré dans une maison, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai frappé, une femme m'a ouverte en petite tenue. J'ai dit, hey, mon mari, où est mon mari dans le lit, enfin voilà, donc trahison. Et la femme était vraiment effondrée parce qu'effectivement, elle avait 3 enfants, elle était très amoureuse de son mari, enfin tout allait bien jusque-là. Mais ça aussi, ça ne suffit pas. Il faut aller ailleurs et avant. Et bien sûr, ça aussi, c'est bien, c'est normal qu'une femme ne soit pas bien. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est-à-dire pour essayer de vous présenter la dépression, par rapport à la culpabilité de l'enfant intérieur, la culpabilité de l'innocent. En fait, elle-même, c'était une enfant qui n'était pas désirée. C'était une enfant qui n'avait pas été désirée. Même sa mère avait essayé de faire un avortement quand la mère était enceinte d'elle. Après, l'enfant n'a pas été aimé, n'a pas été apprécié, etc., par sa mère. Était enfin plus ou moins gardé par la mère et plus ou moins gardé par les grands-parents, etc. Donc, elle n'a pas eu ce bain narcissique maternel et maternant. Et autre chose de très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit dans l'histoire de ses parents que son propre père a perdu sa mère quand elle avait un an. Quand il avait un an, le père a perdu sa mère quand il avait un an. Et puis, sa propre mère, la mère de cette femme, effectivement, a été retirée de sa famille et mise à la DAS, et la mère non plus n'a pas grandi avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Donc si vous voulez, on s'aperçoit qu'en fait, et puis cette fille, et puis alors le père aussi de cette fille s'était présenté comme un coureur, comme un aventurier, et en fait depuis toujours, le père était considéré dans les yeux de la fille comme un coureur et comme un trahison. Alors donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, ce qui arrive ici et maintenant par rapport à cette fille qui perd ses parents, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une continuité de sens par rapport à toutes les abandons subis depuis l'enfance et même de façon intergénérationnelle au niveau de ses propres parents. Vous voyez ? Et donc, effectivement, c'est une fille qui est infirmière, très gentille, très altruiste, elle s'est toujours occupée de ses parents, etc. Voilà. Alors, c'est-à-dire que le choc qui est arrivé aujourd'hui a en fait réveillé en elle le fantasme, enfin, a titillé la culpabilité, le fantasme qu'elle était, et le fantasme de l'enfant intérieur coupable. Et c'est ça, beaucoup plus que... Enfin, c'est dans une continuité de sens. Hein. Et puis, une autre fille, effectivement... qui était déprimée, qui avait fait 3 tentatives de suicide successives, mais heureusement ratées, parce que elle vivait en couple, une jeune fille de 25 ans, elle vivait en couple, mais elle n'était pas très satisfaite de son couple parce que son copain ne consacrait pas beaucoup de temps à elle, c'est-à-dire le copain, il allait faire le foot ou le week-end, la bière avec des copains, etc. Donc, il n'était pas souvent avec elle. Et alors, elle, en fait, elle a dit à son copain, voilà, puisque c'est comme ça, je te quitte. Mais elle n'avait absolument pas l'intention de quitter son ami, elle voulait juste faire un électrochoc. Donc, elle est partie chez sa sœur pendant une semaine. Après, quand il a vu que l'ami ne réagissait pas, elle est revenue vers son ami. Mais c'est là où son ami lui a dit, écoute, t'es parti, t'as bien fait de partir, maintenant on va pas reprendre la vie ensemble, finalement c'était aussi bien comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'elle a fait 3 tentatives de suicide importantes. Alors vous voyez là aussi, que c'est pas du tout proportionnel, c'est-à-dire qu'on s'en va, on se met pas à mort comme ça, c'est 3 tentatives de suicide importantes. Et en fait, on s'aperçoit chez elle, je me suis aperçu chez elle d'un phénomène très important, qu'on voit chez toutes les femmes naturellement, mais chez elle de façon tout à fait caricaturale. En fait, ce qu'une femme demande à son mari, en premier lieu, vous m'excuserez madame, mais je crois que c'est tout à fait normal, une première chose qu'une femme demande à son mari, c'est que le mari joue un rôle maternel. C'est-à-dire que le mari est d'abord et avant tout pour la femme une mère. Parce que le mari, enfin l'enfant, le petit garçon, il se sépare de sa mère et plus tard, il va rencontrer une mère dans sa femme. Mais donc la petite fille va se séparer également de sa mère et donc il ne peut pas rencontrer la mère. Donc il y a une espèce de projection d'une image maternelle, maternante chez le mari. C'est pour ça que toutes les femmes demandent à leur mari non pas seulement le rapport sexuel dont elles les accusent des obsédés sexuels, mais aussi le dialogue, la tendresse, la gentillesse, la compréhension, la complicité, enfin tous les paramètres qui relèvent effectivement d'une relation mère-fille tout à fait naturelle, hein, sans aucune péjoration. Donc d'abord, on s'aperçoit de façon importante qu'en fait, cette femme demandait, enfin était frustrée que son mari ne joue pas le rôle d'une mère. Alors d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent des amants. Non pas parce qu'elles sont boulimiques de sexe, mais parce qu'à travers l'amant, on trouve la maman. Il y a ce qu'on parle, on discute, on se comprend, etc. Donc il était très frustré que l'ami ne puisse pas jouer un rôle maternel. Et naturellement, cet ami ne pouvait pas jouer un rôle maternel, alors c'est pour ça qu'il l'a quitté. Voilà, alors dans son histoire, on n'a rien découvert de très important. Seulement un jour, elle est allée voir sa mère et s'est mise en larmes devant sa mère. Et elle a dit, Maman, je vais pas bien, je suis déprimée, etc. Des tentatives de suicide. Sa mère s'est mise à pleurer en disant, Oui, ma fille, je comprends, tu vas pas bien, tu es déprimée. C'est de ma faute. Et à ce moment-là, la mère, enfin, je vais vite, hein, lui a parlé des tas de choses qu'elle ne savait pas. C'est que quand elle est née, quand cette fille est née, en fait, elle a vu sa mère pour la première fois qu'à l'âge de 9 mois. C'est-à-dire que sa mère, elle aussi, elle avait essayé de se faire avorter parce qu'elle avait déjà 5-6 enfants et donc elle ne voulait pas de cette fille. Et quand cette fille est née, la mère était déprimée, elle a été hospitalisée à l'hôpital psychiatrique pendant plusieurs mois. Donc cette fille a été placée en nourrice et n'a vu sa mère pour la première fois. Enfin, non, pas pour la première fois, mais elle le voyait de temps en temps. Mais en fait, elle a commencé à vivre avec sa mère que vers l'âge de 9 mois. Vous voyez? Alors donc, ce que j'essaie de dire, c'est que ce qui arrive ici et maintenant, c'est en rapport toujours dans une espèce de continuité de sens par rapport à ce qui fut. Et ce qui fut, c'est la culpabilité d'avoir subi, la culpabilité d'avoir assisté au mal. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que je vous ai dit que donc, à partir de l'enfance, il y a l'expiation, hein, il y a deux mécanismes de défense, l'expiation et puis la quête de l'innocence. Ce qui est très intéressant, c'est que, hein, je vous avais parlé du ressort tout à l'heure, dans la quête de l'innocence, on s'aperçoit qu'en fait, plus on est dans la quête de l'innocence, cette quête de l'innocence, loin d'apaiser la culpabilité, ne fait que le nourrir, ne fait que l'entretenir. C'est-à-dire la culpabilité augmente de plus en plus. Donc, on cherche l'innocence. En fait, ça augmente la culpabilité, cercle vicieux. Et comme la culpabilité augmente, il faut encore surenchérir. Dans la quête de l'innocent, vous voyez, on est piégé dans une histoire, dans une surenchère absolument épouvantable. Voilà, je vais vite. Alors donc, donc voilà, enfin, en général, le de la dépression. Enfin, donc vous avez compris à travers ce que je dis que le mécanisme de la dépression, c'est aussi, ça renvoie toujours à un déficit narcissique maternel important. Et bien alors voilà. Alors donc, ce qui m'a paru intéressant, je vais rapidement vis-à-vis de ça, c'est que je crois qu'en fait, on entend beaucoup parler de la déculpabilisation, etc. Moi, je pense que la culpabilité est au cœur de la dépression, et ce qui est très important dans la dépression, c'est pas la déculpabilisation, parce que ça, c'est un mensonge, c'est un fausse illusion. Ce que je crois qu'il faut culpabiliser les gens, parce qu'en fait. La déculpabilisation, c'est le déni de la culpabilité. Nous sommes coupables. Nous sommes coupables pour tout le mal qu'on n'a pas fait à autrui. Nous sommes coupables Oui, parce que nos mécanismes de combativité et d'agressivité, puisque nous voulons être des gens parfaits et gentils. Donc nous sommes coupables non seulement du mal qu'on nous a fait ou au mal auquel on a assisté, mais nous sommes doublement coupables parce que nous n'avons pas fait du mal à autrui, du mal que nous n'avons pas fait à autrui, mais nous sommes triplement coupables du mal que nous nous sommes fait. Je répète, 3 couches de culpabilité. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas déculpabiliser, mais il faut commencer à culpabiliser. 3 couches de culpabilité, c'est d'abord la culpabilité du mal qu'on nous a fait, la culpabilité donc du mal que nous n'avons pas fait, voyez, et la culpabilité du mal que nous nous sommes fait. Que nous nous sommes fait à nous-mêmes, ça veut dire quoi? En ne s'aimant pas, en ne s'occupant pas de soi, en mettant toute notre énergie au service d'autrui. Alors je crois qu'un mécanisme très important dans la dépression, c'est loin de la déculpabilisation, c'est de rentrer dans la faute. Il faut que nous devenions des êtres pécheurs. Des êtres pécheurs, c'est exactement ce que préconise l'Ancien Testament dans le fruit défendu, parce que le fruit défendu, en fait, c'est une invitation au péché et c'est une invitation à la faute. Donc il faut qu'on rentre dans le péché, c'est-à-dire il faut qu'on commence à s'occuper de soi, il faut qu'on réoriente la libido vers soi, mais en même temps, il faut qu'on puisse rentrer dans le pardon. C'est-à-dire le pardon à qui d'abord? Le pardon à soi, parce que le vrai coupable, c'est l'innocent. C'est nous qui sommes innocents. Et ensuite, le pardon aussi par rapport à celui qui nous a fait du mal. L'enseignement de Jésus. Pourquoi? Parce que la haine, le désir de vengeance du Père qui m'a violé, vous comprenez, est en fait une punition supplémentaire. C'est-à-dire que cette haine et cette rancune par rapport au Père, vous voyez, est une supplémentaire. Parce que pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous empêche de l'aimer. Donc, à partir du moment, donc absolument, pour s'en sortir, il faut essayer de libérer la libido qui est encagée, voyez, de libérer la libido, libidinaliser soi et autrui, aimer son prochain comme soi-même. Et ça, ça passe par le pardon de soi et ça passe par le pardon d'autrui. Et en conclusion, rapidement, on m'a dit d'accélérer, c'est que quoi, j'ai oublié. Voilà, c'est que quoi, j'avais noté sur un bout de papier. Voilà, donc c'est que c'est une chance, il faut accueillir la dépression. Et la dépression a un sens, j'essaie de dire. La dépression a une nécessité, la dépression est totalement inévitable. Inévitable, ça a une fonction, ça veut dire que personne ne peut jamais échapper à la dépression. D'abord, la dépressivité qui est un mécanisme normal, mais quand on lutte et tout, finalement, l'histoire nous rattrape. C'est-à-dire qu'il y a toujours, c'est absolument impossible de pouvoir échapper à ça si on a un contentieux, enfin une règle, une note à régler. Et donc, c'est très positif la dépression, c'est une chance parce qu'en fait, c'est un miroir qui nous dit, dis donc, tu ne peux plus continuer à vivre comme avant, il faut que tu changes et il faut que tu deviennes toi. Et c'est à la fois un miroir qui en même temps nous montre le chemin de devenir soi, c'est-à-dire de rentrer dans la faute, de rentrer dans le péché, de commencer à s'occuper de soi et de libérer la libido pour l'investir au niveau de soi et au niveau d'autrui. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Hein. 50 minutes pile.
Je peux vous accorder encore 2 ou 3 minutes s'il y a quelques questions.
Des questions faciles, hein, parce que...
Oui, finalement, vous rejoignez la phrase de Lacan assez pessimiste qui disait qu'aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Et donc, il faut que l'enfant intègre ce sens. Finalement, la dépression sert à intégrer cette proposition assez pessimiste.
Voilà, voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais je ne sais pas ce que j'en pense. D'ailleurs, je passe quelques semaines à comprendre la phrase que vous dites là. Enfin, si je comprends rapidement, c'est peut-être Lacan qui a recopié sur moi.
Non, il disait ça dans le séminaire sur le transfert. C'était une proposition sur l'amour. Qu'est-ce qu'était l'amour? C'est-à-dire donner ce qu'on n'a pas, donc accepter son manque à être, à quelqu'un qui n'en veut pas.
Il n'en veut pas, oui, si, ça revient un peu à ce que je dis, oui. C'est-à-dire que dans la mesure où effectivement on s'identifie au manque, c'est ça, hein? Donc, c'est-à-dire on devient, oui, on accepte son manque à être, oui, bien sûr, oui. Mais je pense aussi qu'on ne peut accepter son manque à être, enfin c'est plus facile à dire qu'à intégrer, pas qu'on ne peut accepter son manque à être que quand même, dans la mesure où il y a une organisation narcissique quand même première, dans la mesure où il y a quand même un certain nombre de cadres et de repères. C'est-à-dire que l'enfant, quand il y a des carences sur le plan maternel massives, donc on peut pas symboliser ça, on peut pas intégrer ça, on peut pas gérer ça. Et quand qui dit carence maternelle, en fait ça veut rien dire carence maternelle. Donc un enfant, quand il est carencé maternel, obligatoirement paternel, parce que la carence maternelle, c'est-à-dire que si la mère n'est pas heureuse, parce que l'enfant est tout de suite inscrit dans un triangle. Hein. Donc si l'enfant est carencé au point de vue maternel, ça veut dire que la mère n'est pas heureuse avec le père. Donc l'enfant, il se sent immédiatement coupable. Tout le projet du déprimé, c'est de rendre la maman malheureuse heureuse. Et donc c'est une histoire de triangle et de panier.
D'abord, je vous remercie pour la clarté de votre exposé. Et moi, j'ai beaucoup appris.
Merci.
Tous les exemples que vous avez pris portaient sur des femmes. Est-ce dire que la femme est plus encline à la dépression que l'homme?
Alors, effectivement, mais c'est pas grave, nous, on peut continuer 5 minutes, même si c'est pas enregistré, monsieur. Non, il faut qu'on s'arrête, non, à pile, alors, non? Je peux répondre à cette question?
Très rapidement.
D'accord. Alors, effectivement, dans la clientèle, sur le plan statistique, on voit une majorité écrasante de femmes. Par exemple, les tentatives de suicide, c'est, je sais plus, moi, 3-4 fois plus important que les tentatives de suicide des hommes. Voilà. Mais on s'aperçoit que les tentatives réussies, entre guillemets, si on peut dire masculines, sont beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que les femmes font beaucoup de tentatives de suicide, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup qui meurent. Mais les hommes, quand ils font des tentatives, ils n'en échappent pas. Ce qui veut dire qu'en fait, la clientèle analytique, la clientèle de la dépression, c'est une clientèle féminine. Pourquoi ? Non, ça ne veut pas dire que les femmes sont plus déprimées que les hommes, ça ne veut pas dire que les femmes sont plus faibles que les hommes, mais ça veut dire, étant donné la supériorité de la femme sur tous les plans, corporel, intelligence, solidité psychologique, elles peuvent se permettre d'être déprimées parce qu'elles sont fortes. Et les hommes ne peuvent pas se permettre d'être déprimés parce que 10 moins 1 est égal à 0. Effectivement, ils tombent. Alors donc, on est, nous, en tant qu'hommes, étant donné notre chétivité sur tous les plans, on est obligé de montrer la bonne face, hein, de faire le fort et tout. Et alors voilà, donc c'est pour ça que nous, on ne va pas avoir les analyses. La clientèle analytique, c'est des femmes. C'est les femmes qui viennent ici, c'est les femmes qui achètent. Parce qu'elles ont une espèce de réceptivité, et puis elles ont des mécanismes de défense, si vous voulez, et autres que nous. C'est-à-dire que les hommes, nous, on ne parle pas. Les femmes, elles parlent. Le Talmud dit, quand Dieu béni soit-il distribua les 10 doses de la parole Dieu du ciel, les femmes en prirent 9. Donc les femmes, elles parlent, les femmes, elles crient, les femmes, elles pleurent et tout ça. Donc elles ont des moyens d'abréaction, donc des moyens de décharge. Elles arrivent à dire qu'elles sont faibles, qu'elles sont malades, qu'elles se plaignent. Alors, tout ça, c'est des moyens de catharsis et d'évacuation. Et que nous, soi-disant, le sexe fort, on n'a pas. Et puis, dès qu'il y a la moindre bise, on tombe comme ça. Mais voilà. Donc, les femmes, on parle de plus de la dépressivité, de la dépression, parce qu'elles sont plus fortes, elles manifestent. Mais nous, on est plus faibles, on ne manifeste pas.
Merci.
Allez-y.
Merci. Nous sommes obligés de couper. Si vous voulez continuer à poser des questions, au stand.
Voilà, merci beaucoup.